Bonjour, je suis Annie Jacob, historienne de l'art. Bienvenue dans Expod, le podcast des expositions, où je décortique pour vous une exposition en cours. Pour poursuivre notre histoire de l'impressionnisme qui fête ses 150 ans dans plusieurs régions de France, j'ai choisi de vous emmener en Normandie, à Giverny, dans ce célèbre village connu dans le monde entier grâce à Claude Monet qui s'y est installé en 1883. Le musée des impressionnismes situé non loin de la maison de l'artiste propose depuis le 29 mars une exposition intitulée « L'impressionnisme et la mer ». 81 œuvres déclinées en thématiques viennent raconter le lien que ces artistes ont eu avec la mer qui leur est si chère, axée principalement sur la Normandie et la Bretagne. Si le sujet a surtout été traité du point de vue des loisirs balnéaires avec ses scènes de plage et ses portraits d'estivants, l'exposition ouvre d'autres perspectives, la vie des ports, la marée basse, les tempêtes et naufrages ou la fuite vers l'ailleurs. S'agissant également du bicentenaire de la naissance d'Eugène Boudin né en 1824, le peintre normand est mis à l'honneur avec 28 œuvres. La Normandie est une région où les peintres se rendent dès la fin du XVIIIe siècle, attirés par la lumière et la nature sauvage de cette côte aux paysages incroyables, comme par exemple les Anglais William Turner et Richard Bonington qui séjournent à Honfleur, suivis des peintres romantiques comme Paul Huet ou Eugène Isabey. Puis c'est au tour de Camille Corot, l'un des fondateurs de l'école de Barbizon, qui après son séjour à Rome en 1829 se rend en Normandie, tandis que Gustave Courbet découvre la mer au Havre en 1841 avant de peindre les plages de Trouville avec son ami le peintre américain James Abbott MacNeil Whistler en 1865. De tout temps, la mer exerce sur les artistes une forte attraction et stimule leur créativité. Si la peinture de marine connaît un âge d'or au XVIIe et XVIIIe siècle en Hollande et en Angleterre, en France, ce sont les spectaculaires marines de Joseph Vernet, louées par Diderot, suivies à partir des années 1830 de celles de Théodore Gudin, qui suscitent l'engouement des impressionnistes pour ce genre qu'ils vont revisiter. Le port est l'un de ces thèmes. S'ils ont en mémoire la célèbre série des 15 vues des ports de France réalisée entre 1753 et 1763 par Joseph Vernet, fascinante tant l'exactitude topographique permet l'identification des navires, les impressionnistes posent quant à eux leur chevalet au bord des quais pour appréhender les variations de la lumière sur la surface de l'eau et étudier leurs répercussions sur les objets sans entrer dans les détails. Les impressions ressenties face à cette étendue sont en effet retranscrites rapidement pour souligner le rapport direct et immédiat avec la réalité. Dans Paris 1874, inventé l'impressionnisme, je terminais par Claude Monet et son tableau « Impression soleil levant » qui peu de temps après allait donner au mouvement son nom, mouvement né en Normandie puisque cette marine est une vue industrielle du port du Havre, d'où le peintre est originaire. L'iconographie et le style de cette toile, loin d'être novateur, sont influencés par les recherches du peintre néerlandais Johan Bartholdt Jonking, dont Monet fait la connaissance en 1862 au Havre. Après avoir peint en 1855 une vue traditionnelle et classique du port d'Anvers à la manière flamande du XVIIe siècle, mais déjà avec un ciel particulier, Jonking exécute en 1868 une eau-forte, le soleil couchant, port d'Anvers, dont plusieurs éléments vont se retrouver dans le célèbre tableau de Claude Monet. Le soleil bas et central qui se reflète dans l'eau, l'agitation des nuages dans le ciel et l'aspect sommaire des formes de la ville portuaire et de ses bateaux. Claude Monet dira d'ailleurs au sujet de Jonking: il compléta l'enseignement de Boudin, il fut à partir de ce moment-là mon vrai maître, et c'est à lui que je dois l'éducation définitive de mon œil. Si au contact de Jonking Monet parfait l'éducation de son œil, c'est auprès d'Eugène Boudin qu'il s'initie à la peinture de plein air. Eugène Boudin, né à Honfleur, est le premier maître de Claude Monet. Les deux hommes se rencontrent au Havre en 1858 chez le papetier et encadreur Gravier, où Eugène Boudin travaille. Gravier expose alors ses paysages à côté des caricatures d'un jeune artiste, Claude Monet, à peine âgé de 18 ans. Boudin, enthousiasmé par le coup de crayon de Monet, lui propose de venir peindre avec lui en plein air, en bordure de mer. Monet dira plus tard: « Boudin, avec une inépuisable bonté, entreprit mon éducation. Mes yeux à la longue s'ouvrirent et je compris vraiment la nature, j'appris en même temps à l'aimer. » Les deux artistes resteront proches tout au long de leur carrière, se vouant une admiration et un respect mutuel. Ainsi, par exemple, Eugène Boudin rend hommage au fameux tableau de Monet en 1885 avec le bassin de l'Eure au Havre. Tandis que Claude Monet, dans une lettre datée du 3 juin 1859, encourage Eugène Boudin à développer ses marines, pressentant un sujet dans lequel son incroyable talent se révélerait. Je cite: En somme, les peintres de marine manquent totalement et c'est pour vous un chemin qui vous mènerait loin. C'est en effet par ces marines que Jeanne Boudin, issue d'une famille de marins, va entre autres devenir célèbre. Il réalise de nombreuses vues de port de Deauville et de Trouville. Quelques-unes d'entre elles sont présentées à l'exposition. Toutefois, c'est une huile sur carton exécutée entre 1853 et 1859, barque de pêche et voilier qui attire notre attention par la dextérité de l'artiste à suggérer la présence de l'eau alors que le fond est gardé en réserve grâce au reflet sur la coque des bateaux. Ce portrait de bateau est placé en regard de bateaux de pêche échoués dans le chenal peint par Camille Corot en 1875. Corot a été l'un des premiers peintres de l'école de Barbizon à s'intéresser aux vues des ports normands. Cette œuvre, qui ouvre l'exposition, souligne un autre aspect dans la production de l'artiste, souvent divisée entre les œuvres destinées au salon officiel, au style plus élaboré, de celles esquissées sur des petits formats, ici à peine 21/23, destinées à ses amis et à quelques fidèles, où la touche libre et rapide à l'apparence non finie fait écho aux recherches des impressionnistes. Camille Pissarro, le seul peintre à avoir participé aux 8 expositions impressionnistes entre 1874 et 1886, et qui a surtout peint des paysages de campagne, réalise à la fin de sa vie une série de 24 toiles ayant pour sujet le port du Havre. Pissarro découvre véritablement la Normandie en 1883, invité à Rouen par Léon Monet, frère de Claude, puis Dieppe en 1902, avant de revenir au Havre en 1903, ville dans laquelle il avait débarqué en 1855, après avoir quitté Saint-Thomas aux Antilles, pour aller étudier la peinture à Paris. C'est pour répondre au goût des amateurs, sa situation financière étant alors délicate, que Pissarro accepte l'invitation du collectionneur havrais Peter van de Velde, afin de peindre une série de toiles immortalisant l'avant-port du Havre en pleine mutation. Il réalise ainsi depuis la fenêtre de sa chambre de l'hôtel Continental, l'anse des pilotes, le Havre matin soleil marée montante, l'une de ses dernières peintures, dont la touche fragmentée et rapide restitue l'activité frénétique du port. Exécutée entre juillet et septembre 1903, la série connaît un grand succès. Malheureusement, Pissarro décède en novembre 1903, au moment où il trouve enfin son style. Quant à Paul Signac, surtout connu comme l'un des fondateurs du néo-impressionnisme avec Georges Seurat et qui entraînera dans cette aventure Camille Pissarro durant 4 ans, il n'a que 16 ans lorsqu'il découvre bouleversé la 4e exposition des impressionnistes en 1879. Mais c'est après avoir assisté à la première exposition personnelle de Claude Monet en 1880 qu'il décide de suivre les pas de son aîné. En 1882, il entreprend son premier voyage de peintre sur la côte normande et réalise entre autres Port en Bessin. Cette œuvre, exécutée alors qu'il n'a que 18 ans, témoigne déjà d'une grande maîtrise dans le traitement des reflets sur la surface de l'eau et de l'agitation des nuages dans le ciel. Peindre des ports est un prétexte pour approfondir leurs recherches et concevoir de nouveaux sujets depuis le rivage. Avant de se rendre en Normandie, les impressionnistes ont souvent pris pour motif les bords de Seine pour transposer sur leurs toiles les infinies variations de la lumière. Ainsi, Claude Monet, à l'époque où il séjourne à Argenteuil dans les années 1870, équipe un bateau-atelier pour être au plus près de l'eau afin d'observer la nature dans toutes ses nuances de lumière et transformer les couleurs suivant les variations atmosphériques et les heures du jour. Pour son bateau-atelier, Monet s'inspire de l'atelier flottant créé par Charles-François d'Aubigny en 1857, surnommé Bottin. Il s'agit d'une barque à rames à fond plat, couverte par une cabine, pour y entreposer les toiles, les couleurs et le matériel, et pouvoir y peindre en cas de pluie, de vent ou d'une trop forte lumière. Mais à la différence de Claude Monet qui reste ancré près des bateaux pour peindre, d'Aubigny navigue parfois pendant plusieurs jours à la recherche d'endroits inexplorés pour concevoir ses sujets. Charles-François d'Aubigny, l'un des pères de l'école de Barbizon qui exerce une influence sur les impressionnistes, se rend pour la première fois en Normandie en 1843. En 1854, il va à Honfleur sur les conseils de son ami Camille Corot et découvre Villerville. Dès les années 1860, d'Aubigny réduit ses marines à l'essentiel, privilégiant l'eau et le ciel. Coucher de soleil près de Villerville, peint vers 1876, en est un bel exemple. Outre les deux pêcheurs à pied, les protagonistes de la scène sont le ciel et la mer, démarqués par la ligne d'horizon où vient se poser le soleil jaune-orangé, dont les reflets qui se répandent sur la surface de l'eau entraînent par ricochet des teintes violettes au centre du rivage. S'il y a bien un artiste qui a influencé les impressionnistes dans la représentation des ciels et de la mer, c'est bien Eugène Boudin. La notoriété rapidement acquise par le peintre est indissociable de sa rencontre à Honfleur en 1859 avec le poète Charles Baudelaire, lequel rédige la même année un article élogieux sur son travail lors du salon officiel où il expose pour la première fois. Il révèle alors l'existence de plusieurs centaines d'études au pastel improvisées en face de la mer et du ciel, qu'il qualifie de prodigieuse magie de l'air et de l'eau. Boudin, qui disait vouloir nager en plein ciel, devient le maître incontesté de la mer et des nuages. Il représente inlassablement ces deux éléments insaisissables, sans forme ni couleur définie, en mouvement permanent qui reflète la lumière de façon toujours différente, avec des reflets et des nuances infinies. Boudin fait de ses marines des poésies. Plusieurs pastels sont présentés à l'exposition où ciel et eau chiffonnés de couleurs se confondent, estompant la frontière, l'eau devenant alors le miroir du ciel. Eugène Boudin, qui aime représenter les variations atmosphériques d'un instant particulier, s'intéresse également à l'instar de ses confrères aux marées. Coucher de soleil à marée basse, peint en 1884, est d'ailleurs le premier tableau de l'artiste acheté par l'État. Le thème lui permet d'animer les scènes de personnages et de bateaux, notamment les activités des pêcheurs et des femmes de pêcheurs sur la plage. Il représente par exemple des femmes en costume coloré lavant du linge dans la Vendière près de Trouville ou étendant le linge sur la grève comme dans Normande étendant du linge sur la plage. Mais c'est Marée basse aux petites dalles de Claude Monet, peint en 1884, qui fascine par l'explosion des couleurs à la limite de l'abstraction. Si les touches vives et épaisses semblent morceler le motif, à une certaine distance, elle le restitue dans toute la réalité de sa lumière particulière. Il faut en effet un temps d'adaptation à notre œil pour reconstruire la scène. Il y a d'abord cette falaise, un amas de jaune orangé qui tranche sur le fond bleu du ciel, puis la mer qui reçoit d'un côté les reflets du ciel et de l'autre ceux de la falaise. Une fois que notre œil a reconstitué les principaux éléments, il discerne la présence de pêcheurs, de nageurs et de gens marchant sur la colline. Dans un autre genre, Claude Monet peint en 1882 les rochers de Pourville, marée basse. Il ne s'agit plus d'un soleil aveuglant répercutant ses rayons sur l'ensemble de la toile, mais d'un ciel voilé et tourmenté qui répand des teintes sombres annonçant une tempête, comme le présage l'agitation de l'eau à l'aspect mousseux dont les vagues viennent se briser contre les rochers. Les rochers qui se dévoilent à marée basse peuvent donc offrir des sujets dramatiques aux peintres de la même façon que certains sites. Depuis Joseph Vernet, les thèmes du naufrage et de la tempête connaissent un essor considérable, notamment avec Théodore Gudin qui, au salon officiel, se spécialise dans le genre à partir des années 1830, au moment où il est nommé peintre officiel de la marine. Dès lors, il exploite tous les ressorts dramatiques du paysage avec ses spectaculaires navires pris dans une tempête en lutte avec une nature déchaînée, renforcés par les effets atmosphériques où la lumière et l'obscurité s'opposent. Cette veine dramatique se retrouve dans une toile très sombre, presque monochrome de Eugène Boudin, intitulée « Un grain », présenté au Salon des artistes français en 1886 et acheté par l'État. Face à une mer agitée et un ciel orageux, lourd et menaçant qui occupe les trois quarts de la surface, deux voiliers tentent désespérément de ne pas s'enfoncer dans les profondeurs. Le thème passionne également Gustave Courbet qui rencontre Eugène Boudin à Paris en 1859. Courbet se rend à plusieurs reprises en Normandie, la première fois au Havre avec son ami d'enfance Urbain Couesnaud en 1841, puis en 1852 et de 1865 à 1869, il séjourne régulièrement au Havre, à Honfleur, à Trouville, Deauville et Étretat. C'est là qu'il peint ce qu'il appelle ses paysages de mer, ayant pour sujet la vague. Il en réalise une série, soit bien avant les séries de son ami Claude Monet, dont chacune est magnifiée par un angle, un cadre et une lumière spécifique. Deux de ses œuvres sont présentées à l'exposition, l'une présentant une barque échouée sur le rivage alors que la mer est fortement agitée, l'autre se concentre sur le mouvement et l'énergie d'une vague qui se soulève dans un cadrage serré, projetant le spectateur en plein milieu d'une mer en furie sous un ciel brun. Si la Normandie est une source d'inspiration inépuisable pour les artistes fascinés par la beauté de ces paysages encore sauvages, ces plages, dont certaines sont devenues très touristiques, attirent également leur attention. Les bains de mer deviennent à la mode en Normandie grâce aux Anglais qui découvrent les bienfaits de la balnéothérapie à la fin du XVIIIe siècle. La vogue se propage depuis Dieppe, fréquentée par la duchesse de Berry dès 1824. avant que le duc de Morny, demi-frère de Napoléon III, lance en 1860 la station balnéaire de Deauville dont il veut faire le royaume de l'élégance. Les artistes, en quête d'une clientèle aisée, développent alors de nouveaux sujets sur les loisirs de ces estivants. Si Édouard Manet, Edgar Degas et même Claude Monet se sont essayés à ce genre, s'attachant à peindre plutôt des portraits de leur famille sur la plage, Eugène Boudin en fait une vraie spécialité quand il s'installe à Trouville en 1862. Y voyant un filon à exploiter, il commence dès l'été à réaliser ses premières scènes de plage, prises sur le vif, à l'aquarelle, à l'huile ou au pastel. Représentant ce qu'on appelle les plages à crinoline en référence à l'étoffe portée par les femmes, Eugène Boudin exprime l'essence même de la vie moderne voulue par Charles Baudelaire. Dans ses œuvres de petite dimension, il ne cherche pas à individualiser les silhouettes, il veut seulement évoquer les mondanités balnéaires dans son ensemble. L'absence de contours précis des personnages est liée à une observation qu'il a faite, à savoir que la lumière diffuse du bord de mer estompe les contours. Dans son compte-rendu du salon de 1869, le critique Jules-Antoine Castagnari note que le peintre Eugène Boudin a inventé un nouveau type de marine, je cite, « qui consiste à peindre avec la mer tout un beau monde exotique que la vie rassemble l'été dans nos villes d'eau ». Néanmoins, ces scènes de plage ne suscitant pas l'engouement espéré, les amateurs fortunés n'appréciant pas de se voir représentés de manière indéterminée, Boudin préfère abandonner ce genre à partir de 1869. L'exotisme est bien ce que recherchent ces peintres en quête d'inspiration nouvelle. Outre la Normandie, la Bretagne suscite également leur curiosité. Monet, qui commence à être collectionné par les Américains, peut enfin partir ailleurs, et c'est en Bretagne qu'il se rend de septembre à novembre 1886, précisément à Belle-Île-en-Mer. Il écrit à sa compagne Alice Ochédé : « Je sais bien que pour peindre vraiment la mer, il faut la voir tous les jours, à toute heure et au même endroit, pour en connaître la vie à cet endroit-là. Aussi, je refais les mêmes motifs jusqu'à 4 et 6 fois même. » C'est donc à Belle-Île-en-Mer que Monet réalise ses premières séries. Il exécute 39 toiles, dont les rochers de Belle-Île, la côte sauvage. L'ensemble présenté l'année suivante à la galerie Georges Petit rencontre un franc succès. Paul Gauguin, qui participe aux expositions impressionnistes de 1879 à 1886, se rend quant à lui à Pont-Aven en juillet 1886. Dans cette commune rurale, pittoresque, encore intacte, le peintre découvre une forme d'archaïsme et de primitivisme. Il y retourne à 3 reprises et développe une nouvelle approche dans sa façon de peindre au contact de Paul Sérusier et d'Émile Bernard. La toile sur la plage de Bretagne, peinte en 1889, concentre les recherches formelles de l'artiste autour du synthétisme qui consiste à l'aide d'un cerne à réduire les formes à l'essentiel, des surfaces planes sur lesquelles les couleurs sont librement étendues. La touche impressionniste de Claude Monet, comme les recherches entreprises par Paul Gauguin à Pont-Aven, inspire une nouvelle génération de peintres bretons qui tentent de faire la synthèse entre les deux approches et reprennent également les thèmes de leurs aînés. 2 de ces artistes sont à l'honneur à l'exposition, Henri Moret et Maxime Moffrat. Si Henri Moret fait la connaissance de Paul Gauguin à Pont-Aven en 1888 et intègre l'école de Pont-Aven, il revient à une technique proche de l'impressionnisme à partir de 1890. Attiré par la mer, il tente d'exprimer dans ses œuvres sa vision personnelle, oscillant entre les deux héritages. Ainsi, Grotan à Doélan et l'île d'Ouessant, la chaussée Keller sont proches de la manière de Claude Monet, tandis que île de Groix, paysage côtier, avoisine davantage le synthétisme de Paul Gauguin. Le Nantais Maxime Moffroy fait également la connaissance de Paul Gauguin à Pont-Aven, où il s'installe pendant plusieurs années. Il renoue néanmoins avec l'impressionnisme qu'il avait d'abord adopté, en réalisant au début du XXe siècle un ensemble de toiles inspirées de la série de Belle-Île-en-Mer de Claude Monet, comme le bateau à la côte Morga de 1902, la tempête à Quiberon de 1900, ou encore Entrée du port de Port-Goulphare, Belle-Île-en-Mer de 1909. Quant à son tableau transatlantique sortant du port, il se présente comme une invitation au voyage vers de nouvelles contrées, vers de nouveaux sujets exotiques pour les peintres. Ainsi, Charles Laval, qui s'est rendu en Martinique avec Paul Gauguin en 1887, réalise « Femme au bord de la mer » esquisse, montrant 3 Martiniquaises peintes dans un style très proche de son confrère, au point qu'il est parfois difficile de différencier leurs œuvres. Assoiffé de liberté et d'exotisme, Gauguin, pour sa part, décide de s'installer en Polynésie. Il quitte famille, amis et civilisation pour revenir aux sources et vivre comme un sauvage. Paysage de Tevaa, peint en 1896, qui représente le volcan sur l'île de Mooreea, symbolise ce retour à la nature. Dans la quête de liberté, le voyage peut aussi être synonyme de fuite. Et c'est avec l'évasion de Rochefort, un tableau d'Édouard Manet, que l'exposition prend fin. Sympathisant de la Commune, directeur du journal républicain La Lanterne, condamné lors du procès des communards en décembre 1873 au bagne en Nouvelle-Calédonie, Henri Rochefort s'évade en juillet 1874. Manet attend toutefois la loi d'amnistie des communards en 1880 pour exécuter son tableau. La liberté n'ayant pas de prix, c'est dans une petite barque que Rochefort, bravant une mer déchaînée, tente de rejoindre le vaisseau qui l'emmènera en Australie. L'impressionnisme et la mer, une exposition à découvrir absolument au musée des impressionnismes à Giverny jusqu'au 30 juin 2024. C'était Expod, le podcast des expositions.